Après messe, les débats du dîner et ses blagues, quelle joie d'accueillir aujourd'hui Rémi Brague, écrivain, essayiste, philosophe bien connu. Sa présence nous a... Bien connu, sa présence nous honore, nous réjouit sa venue. Tout d'abord, normalien, talat, puis en Sorbonne, de nombreux cours de philosophie il donne. Écoutons-le. Conduit là par la Providence, c'est elle qui va tenir cette conférence.
Moi, et moi. Excuse-moi Claire, mais je crois que tu t'es trompée de conférencier, parce que nous avons ici le père Maxime, mais nous n'échapperons pas aux alexandrins. La Providence, qu'est-ce, mes chers amis Tala ? Ce n'est rien d'autre que ce que nous vivons là. Tandis que Rémi Brague, à son grand désarroi, ne peut nous enseigner la raison et la foi, notre brave aumônier nous offre, au pied levé, ses lumières et savoirs, pour ne pas nous laisser dans l'immense douleur d'un soir sans conférence. C'est, chers amis Tala, ce qu'est la Providence.
Ils sont très forts. Alors, je vais quand même commencer par un petit mot sur la Providence. Parce qu'il y a donc bientôt 3 ans, j'étais allé voir mon vicaire général et il m'avait dit « Maxime, de quoi as-tu besoin ?» Je lui avais dit « J'ai besoin de stabilité, j'ai besoin de rester dans la même mission ». Voilà. 3 semaines après, mon téléphone sonne, et là on me demande de rejoindre donc l'équipe qui devait s'occuper de Notre-Dame. Et vous voyez, hein, il y a une part de ce que peut être la Providence, c'est aussi on la reconnaît à travers aussi une certaine relecture de la vie. Comment est-ce que... Parce que la Providence aussi, c'est la capacité de Dieu donc, à conduire le monde, hein, à travers au fond, toutes ces causes secondes, et pourtant, au-delà de toute cause, il conduit le monde vers son salut. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que par beaucoup de préparation, il m'avait disposé à ce que je puisse répondre à cette mission qui n'était vraiment pas prévue et qui chamboulait en fait un petit peu même une partie de ce que j'aurais pu souhaiter, puisque donc, du coup j'ai dû changer de paroisse dans l'année qui a suivi. Voilà, mais j'ai rejoint, pourquoi ? Parce que j'ai été ici, Tala, historien de l'art, et puis qu'ensuite j'ai repiqué pour 12 ans de théologie. En faisant une thèse là encore sur les questions artistiques et une fois arrivé au collège des Bernardins, je me disais mais franchement je me demande bien à quoi ça sert tout ça, parce que j'enseignais jamais mon sujet de thèse, je mettais pas du tout ça en œuvre. Non, mais finalement Dieu est vraiment le Dieu des préparations. C'est vraiment une leçon que j'en ai tirée. Et donc là ce que je vais vous présenter, à vrai dire je l'ai présenté il y a de cela 2 jours à la mairie du 5e, à l'association des Amis de Notre-Dame, qui m'avait demandé une conférence, donc j'ai un peu rebidouillé vite fait un PowerPoint. Je vous montrerai ensuite d'un dossier qui est dans mon ordinateur, les toutes dernières photos que normalement nous n'avons plus le droit de montrer, mais enfin, bon, quand c'est avec l'état là, c'est presque comme si je discutais avec moi-même. Pour dire un peu les choses, je vais vous expliquer au fond ce qui a présidé donc à 2 tâches qu'on m'a confiées. Une première, on m'avait appelé, c'était pour, au départ, siéger dans un comité artistique pour le mobilier liturgique de Notre-Dame. Bon. Moi, j'ai tout de suite répondu que je n'étais pas du tout un spécialiste de l'art d'aujourd'hui et que c'était un peu au-delà de mes compétences, mais on m'a dit, si, c'est très bien que tu arrives avec ton regard, justement, venant de l'art ancien. En revanche, ce qu'on m'avait demandé, c'était aussi de fédérer une équipe qui était l'équipe, pour le coup, qui se chargeait de réaccrocher toutes les œuvres anciennes. Il est arrivé cette chose assez unique dans l'histoire d'une cathédrale, qu'on a dû tout sortir pour pouvoir restaurer, et qu'à partir du moment où on sortait tout, on sortait un petit peu aussi bien de l'empilement des siècles, qui a quelque chose d'infiniment attachant, voilà, et en même temps de parfois un petit peu arbitraire, il faut bien le dire, parce qu'il y avait des tas de trucs qui étaient un peu partout, notamment pas mal de tableaux qui étaient rentrés dans la cathédrale, un peu à la petite semaine, il faut bien l'avouer, accroché un peu au fil des retours, sans véritable ordre. Et du coup, l'idée, c'était un peu de se dire comment est-ce qu'on rouvre une cathédrale et comment est-ce qu'on la rend accessible à une époque où, au fond, beaucoup de gens ne connaissent absolument plus la foi. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est entre guillemets le full parcours, enfin le parcours entier, puisque nous ne faisons pas de globish, que vous ne ferez probablement jamais, parce que la visite moyenne dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est 20 minutes. Voilà, en réalité, voilà, il y a de quoi vraiment y passer des heures. Et donc, je vais vous montrer comment, moi j'ai cherché, donc ça c'est un texte que nous avons présenté le 13 juillet 2023 à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, qui est composée d'une quarantaine d'experts du patrimoine, pour présenter le parcours diocésain. Donc moi j'étais le scribe, je vous expliquerai un jour ce que veut dire cette profession, c'est avant tout des rencontres. Donc voilà, et donc du coup, voilà, c'est un texte donc il a fallu rédiger, qui pour le coup avait été accepté à l'unanimité. Hein. En juillet dernier, ils ont refusé à l'unanimité le principe même de nouveaux vitraux dans Notre-Dame, en tout cas à l'endroit où on voulait les mettre, mais à l'époque, ils avaient accepté à l'unanimité, et ça veut dire, entre guillemets, qu'ils avaient réussi à comprendre ce qu'on voulait leur dire. Nous, affectataires de la cathédrale, c'est-à-dire le diocèse de Paris, qui est affectataire intégral de la cathédrale, c'est-à-dire usager interne de tout l'intérieur de la cathédrale, de 100% de la cathédrale, tandis que l'État est propriétaire de toute la cathédrale également, en tout cas de tout ce qui, dans la cathédrale, est d'avant 1905, plutôt est acquis avant 1905. Donc, ensuite, on a acquis des choses plus anciennes que 1905, mais elles appartiennent au diocèse, elles appartiennent à la cathédrale, sauf cas de rétrocession où le diocèse rétrocède des choses à l'État. Tout simplement parce que c'est plus facile d'avoir recours à l'État, notamment pour un certain nombre de choses de conservation. Voilà. Donc voilà, vous allez voir un petit peu comment on a essayé de réfléchir les choses avec un principe général, je dirais, qui est qu'on s'est dit, mais au fond, qu'est-ce que Notre-Dame a donné ? Voilà. Je crois profondément m'être mis au service, là, au cours de ces deux dernières années, d'une émotion spirituelle qui reflète ce que Notre-Dame donne sans cesse. Hein. C'est-à-dire, la cathédrale est comme un englobant, c'est un englobant marial. La cathédrale est dédiée à la Vierge Marie, à Notre-Dame. Et qu'est-ce que fait Notre-Dame ? Elle nous donne toujours son Fils. Elle nous donne le Christ. Hein. Et ça, je crois que c'est ce qu'on... Au fond, ça résume un petit peu ce qu'on a cherché à montrer. Au fond, une cathédrale qui vient enseigner le Christ, qui vient faire entrer dans le mystère du Christ. Donc je vous cite, comme je suis un bon prêtre parisien, une phrase de Jean-Marie Lustiger, mon raïs à moi. Le temple véritable, mais c'est une phrase très profonde, le temple véritable, c'est là où réside la gloire de Dieu. Où réside-t-elle ? En l'humanité du Christ qui prend chair de la Vierge Marie. Le temple véritable, invisible d'abord, insignifiant, sinon aux yeux de la foi, c'est le sein de la Vierge et c'est la chair passible du Christ qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort pour nos péchés, a été enseveli et ressuscité des morts. Voilà, moi je ne me suis pas d'abord mis au service d'œuvres, si belles soient-elles, je me suis mis au service du Christ qui continue d'être annoncé dans cette cathédrale. Et l'enjeu, c'est de réussir à le faire comprendre à tous les acteurs de l'État qui, eux, travaillent, eux aussi, avec beaucoup de compétences, mais parfois avec une vision qui n'est plus du tout chrétienne. Et donc, comment est-ce qu'on réussit à la fois à réfléchir un accrochage et à le faire accepter, le rendre intelligible. Alors, ce qu'on a cherché à faire, hein, c'est... On a eu quelques principes en tête. Donc le premier principe, je viens de vous le dire en gros, hein, c'est que la cathédrale, c'est une cathédrale qui est pour un culte vivant, et c'est un des rares édifices au monde à être utilisé exactement pour ce pourquoi il a toujours été fait, c'est-à-dire la célébration de l'Eucharistie. Hein. Donc le premier principe, c'était au fond, il faut que le culte demeure dans la cathédrale, y compris pour ceux qui ne sont pas croyants, parce que sinon ils n'ont vraiment aucune chance de le comprendre. On va muséifier la cathédrale. L'autre chose qu'on a eu en tête, c'est quand même qu'il y a une sédimentation des siècles. Hein. Le patrimoine à Notre-Dame, c'est du culte sédimenté, si vous voulez. C'est au fil des siècles, on va apporter de nouvelles œuvres vivantes qui chantent la gloire de Dieu, mais au fur et à mesure, ça devient ce qu'on appelle le patrimoine, c'est-à-dire voilà, ces œuvres d'art qui sont le bien commun des Français, des Parisiens en particulier. Et à partir de là, un des enjeux, ça a été de comprendre le principe intérieur de la cathédrale. Alors, qu'est-ce que j'entends par principe intérieur ? Ben, un bâtiment, il est construit d'une certaine manière, mais au fond, au fil des siècles, en tout cas, on a fait cet acte de foi, il vient un peu dicter sa propre loi interne, il vient nous donner de comprendre comment il fonctionne. Et c'est un peu ça que je voudrais vous montrer dans un premier temps. Il y a trois grandes périodes de l'histoire de la cathédrale. La première période, évidemment, c'est la période médiévale. Notre-Dame est construite, en gros, on dit en 1163, on dit que le pape est venu poser la première pierre. En réalité, c'est probablement pas vrai, mais on a mis ça sous son patronage. Mais en gros, aux alentours des années 1160, on commence la construction. 1270, la construction est terminée. Donc, relativement rapide, quand même. Et une nef à cinq allées, vous voyez, ce qui est assez rare dans les cathédrales gothiques, très probablement en référence déjà aux basiliques romaines, qui en comptent cinq aussi. Donc une manière pour l'église de Paris d'être un peu en émulation avec Rome. Vous voyez que sur les côtés, il n'y a pas de chapelle latérale, au départ. Il y a un mur et il y a simplement les contreforts qui permettent à la cathédrale de tenir, et puis un certain nombre de vitraux. En réalité, très vite, dans les premières années du XIIIe siècle, on va commencer à repousser les murs de ces chapelles pour créer, des chapelles qui vont être des chapelles de dévotion privée, qui pendant des siècles vont vivre une vie complètement indépendante. Toutes les chapelles, donc d'abord les chapelles de ce qu'on appelle les collatéraux, ici, et puis ce qu'on appelle les chapelles rayonnantes autour de l'abside et du déambulatoire. Le déambulatoire, c'est la partie où l'on chemine, comme cela est indiqué. La cathédrale, donc, c'est un espace ouvert, c'est un espace sans chaise, je le rappelle, parce que nous, on a toujours l'idée que les cathédrales, on vient s'y asseoir. En réalité, les chaises, c'est très tardif. Ça commence un peu au 18e, ensuite, il faut les payer, et puis c'est qu'au 19e que ça commence à se généraliser un petit peu. Donc, il faut quand même se faire une idée de liturgie, de choses qui se passent dans la cathédrale, où tout le monde circule quand même très, très, très librement. Il y a beaucoup de bruit, en fait, dans une cathédrale médiévale. Et donc, les braves chanoines qui sont censés assurer tous les offices, assez rapidement aussi, ils comprennent que ça ne va pas être possible. Et ils construisent cette clôture de chœur qui entoure donc toute la partie centrale, avec, à partir donc assez vite quand même, la clôture de chœur est construite. Et ensuite, on vient rajouter une ornementation sur les parties externes, et qui est une ornementation qui est plus 14e. Et dans cette ornementation, elle représente la vie du Christ. Elle représente la vie du Christ déroulée en sens inverse des aiguilles d'une montre. Là, je vais faire un petit gros plan avec un dessin de Viollet-le-Duc. Alors, Viollet-le-Duc, il représente, mais il reconstruit toujours selon son idée. Parce que quand Viollet-le-Duc va restaurer Notre-Dame, il y a des tas de parties qui sont détruites, mais il va un peu imaginer ce que ça devait être. Et donc ici, vous avez cette clôture qui commence à peu près... qui commence là. En tout cas, la clôture de la vie du Christ, avec l'enfance du Christ, la vie publique du Christ, la passion du Christ, sur ce qu'on appelle le jubé, dont des parties ont été retrouvées pendant les fouilles. Alors là, j'ai pas de photo à vous montrer, mais on a retrouvé toute une partie du jubé médiéval qui avait été détruit au grand siècle. Vous verrez que la deuxième période de construction de la cathédrale, c'est le grand siècle. Et donc, on a détruit toute la partie consacrée à la passion. Et puis, ici, on va avoir la première apparition de Jésus, l'apparition à Marie-Madeleine, qui est ici. Et puis, on va dérouler les apparitions jusqu'en gros au pèlerin d'Emmaüs, qui est un peu considéré comme la dernière apparition, l'apparition à l'heure du soir de Jésus. Donc, vous voyez, on tourne comme ça, et on dispose de cette clôture de cœur dont un certain nombre d'éléments sont préservés encore aujourd'hui. Honneur, enfance et vie publique, donc j'ai un peu représenté à travers la scène de l'Épiphanie ici, et au sud, scène de résurrection. Avant l'incendie, on entrait dans la cathédrale par le portail Sainte-Anne, qui est donc le portail du côté sud, et on remontait l'allée dans ce sens-là, ce qui avait du sens puisque on suivait du coup le déroulé des apparitions, avant ensuite de suivre le déroulé de l'enfance et de la vie publique. Simplement, on s'est dit, puisqu'il n'y a plus que ça qui reste, et si on veut introduire les gens aussi au mystère du Christ, ça serait peut-être bien quand même de les faire passer d'abord par l'enfance et la vie publique, et ensuite seulement par la résurrection. Donc on a décidé, ça a été une première idée, donc vous voyez, c'est de toujours partir de l'intangible, partir de ce qui ne peut pas bouger et qui doit dicter notre action. Et donc ce qui devait dicter notre action, c'est que c'était quand même beaucoup plus simple d'entrer, enfin de tourner dans le sens inverse, même si on doit, dans un premier temps, faire un petit va-et-vient ici, et d'avoir d'abord enfance et vie publique, et puis dans un deuxième temps, là, les scènes de la résurrection. Évidemment, je saute plein de trucs qu'il faudrait dire, mais il faut tenir un petit peu dans le temps. Ce qui a contribué encore à renforcer notre idée, donc là, entre-temps, vous avez vu que ça y est, on a des petites chapelles latérales, des petits hôtels, à chaque fois individuels, qui permettent de célébrer des messes pour les défunts pour qui les chapelles ont été achetées. Hein. On achetait quasiment un chapelain, hein, dans Notre-Dame. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui tiraient le diable par la queue, hein, parce qu'ils n'étaient pas du tout assez payés pour célébrer les messes. Alors, on a des registres où ils désertent, du coup, ils font la grève de la messe. Mais on ne se rend pas compte, quand on se plonge dans l'histoire d'une cathédrale et qu'on revisite à travers elle l'histoire de l'Église, on ne se rend pas compte, comme du point de vue ecclésial, nous vivons une période d'un irénisme absolu. Voilà, bon. Mais donc je passe sur ces trucs-là, mais en revanche, ici, donc, le grand siècle, grande deuxième période de l'histoire de la cathédrale, une période un peu complexe, parce qu'en réalité, le gothique n'est plus du tout à la mode. Hein, donc on va essayer de le faire disparaître au maximum. On a même des gravures de Notre-Dame, où on a, dans la gravure, on la représente donc avec des tableaux partout qui cachent toutes les arches gothiques. Bon. Et puis on a soigneusement arrondi la voûte gothique pour faire, on a l'impression qu'on est à Saint-Louis de Versailles, quoi. On a une belle cathédrale grand siècle. Donc si vous voulez, on a tout, on a mis des coffrages en marbre du Portugal, en marbre de Carrare sur toutes les colonnes centrales. Si vous allez au Louvre voir le sacre de Napoléon, de Jacques-Louis David, vous avez le sentiment d'être quelque part dans une église romaine. En réalité, vous êtes dans Notre-Dame, avec l'aménagement grand siècle qui était fait pour camoufler le gothique. Hein. Et dans cette perspective aussi du grand siècle, donc je rappelle qu'on est cette fois-ci après le Concile de Trente, donc dans un mouvement aussi de réforme ecclésiale et de réforme culturelle, il va se passer deux choses. La première chose, c'est qu'on va décider d'ouvrir davantage l'espace qui est ici. Donc on fait tomber le Jubé, hein, on détruit le Jubé, on construit deux autels ici, et puis deux autels latéraux, et encore deux autels sur les côtés. Voilà, et une grille de cœur qui, elle, permet de voir davantage ce qui se passe à l'intérieur de l'enclos canonial. Donc là, vous apercevez la grille de cœur au fond de cette peinture-là qui date de juste avant la Révolution. On réalise en même temps un vœu, hein, qui correspond donc au vœu de Louis XIII. Louis XIII consacre la France à Marie, non pas pour avoir un enfant, comme c'est dit parfois, il a demandé un enfant à Marie et il l'a eu par ailleurs, hein, c'est le fameux Louis Dieudonné, hein, Louis XIV, mais en fait non, il avait décidé de manière très indépendante, dans un texte très beau, très théologique, très, très imprégné par le mystère de la Trinité, de consacrer son royaume à la Vierge Marie. Hein. Et il voulait que cela s'incarne par une représentation, qui pendant très longtemps a été simplement un tableau, un tableau de Philippe de Champaigne qui est aujourd'hui au musée de Caen et que nous n'avons pas réussi à faire revenir dans la cathédrale, mais c'est très bien qu'il y ait des choses un peu ailleurs, et donc il devait représenter la Pietà. Donc ce qui est intéressant, c'est que, pour complexifier un petit peu la chose, donc ce vœu de Louis XIII devait représenter la Pietà. Bon, alors, quand même pour la faire brève, la Pietà, elle va finalement voir le jour ici, hein, tout au fond, devant un maître-autel qui est maintenu au fond. Mais entre-temps, il y a eu une première oscillation de la cathédrale, parce que Louis XIV veut refaire les choses, et il se dit, mais pourquoi pas un autel à la croisée, avec un beau baldaquin à la romaine. Hein, donc je vous avais dit que Notre-Dame donc, a cinq nefs, ce qui la rapproche des basiliques antiques. Il y a toujours eu cette émulation avec Rome, parce que les Parisiens, quand même, on n'est pas arrogants, mais on est quand même fiers de nous. Et donc voilà, donc il y a eu ce projet donc, par Armand Mansart, vous voyez, d'un hôtel avec une confession, hein, comme à Rome, et puis un hôtel à baldaquin, etc. Bon, grosse résistance des chanoines, hein, qui n'ont pas voulu. En fait. Et donc, du coup, on est resté sur un projet beaucoup plus classique, donc avec la Pietà tout au fond. Ce tableau-là, il est aussi intéressant parce qu'au grand siècle, il montre aussi ce qui se passe, c'est que pour... il y a une tradition qui va se créer au fil du temps. Ce sont les orfèvres de Paris qui font un cadeau à Marie au mois de mai. Un cadeau qu'on va donc appeler un mai. Voilà, qui est d'abord une espèce de petit tabernacle avec des petits objets à l'intérieur ou un poème en général, un petit poème marial. Et puis graduellement, ça va évoluer d'abord vers ce qu'on va appeler des petits mets, une série de petits tableaux. Et puis, il va y avoir la série des grands mets. Donc, du long grand siècle, du long 17e, 18e, on va avoir 70 tableaux qui vont être offerts année après année, chaque mois de mai, par les chanoines, jusqu'à couvrir tout l'espace de la cathédrale. Il y en avait partout. Il y en avait dans toute la nef. Donc là, vous les voyez ici accrochés sur des barres de traverse qui cachent les arches gothiques. Donc vous voyez là, il y a une manière de faire disparaître un peu le gothique dans Notre-Dame. Et ces mets, qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent l'histoire des Actes des Apôtres. Et ultérieurement, dans un second temps, quand on commençait à avoir épuisé les derniers épisodes, les fils de Sheva battus par un démon qui leur dit « Je ne sais pas qui vous êtes, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, je ne vous connais pas et je vous couvre de coups. » Voilà. On s'est dit que peut-être des scènes évangéliques, ça pouvait donner de nouveaux sujets. Mais donc, il faut bien avoir l'idée qu'au grand siècle... avant la Révolution, donc là c'est une image très idéalisée, c'est la 3D de l'époque, vous allez voir des 3D, donc c'est très trompeur ces images, tout est faux là-dedans, mais on idéalise une cathédrale mise au cordeau avec ce qu'on appelle ici, donc c'est très théologique, ces grandes scènes, on les appelle des historiés, il y a la même chose dans les grandes basiliques romaines, c'est-à-dire que dans une église, la nef va raconter l'histoire de l'église à travers de grandes peintures narratives ou des mosaïques narratives. Je rappelle qu'à Saint-Pierre de Rome et à Saint-Paul-en-Lemur, au départ, on avait une typologie avec des scènes narratives qui mettaient en parallèle à Saint-Pierre la vie de Pierre et la vie de Moïse, et à Saint-Paul la vie de Paul et la vie d'Aaron. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui sont construites à partir de principes un peu constants de la foi chrétienne. Dans la nef va être le lieu des processions, le lieu qui représente l'histoire, le lieu qui représente le peuple en marche vers son Dieu. L'abside, en revanche, tournée vers l'est, le soleil levant, l'astre qui vient, on va être tourné vers la gloire de Dieu qui vient. Je rappelle que dans une cathédrale comme Notre-Dame, il y a trois portails principaux. Les portails qui sont les portails de la façade qui est à l'ouest, le portail nord, le portail sud. Et le quatrième portail, qu'on appelle le portail royal, en réalité, c'est l'ouverture vers l'abside qui signe non pas l'entrée des fidèles, mais l'entrée du Dieu vivant qui vient vers les fidèles. Donc tout ça est quand même constant dans l'aménagement, mais voilà, on crée ça, on recouvre la cathédrale, on en met aussi dans les chapelles latérales, on en met dans les transepts, on en met un peu partout. Voilà. Et on veut faire disparaître le gothique, et entre parenthèses, c'est à cette période-là aussi qu'on retire tous les vitraux gothiques. De toute la cathédrale, parce qu'il faut faire entrer la lumière, de la lumière, de grâce de la lumière. Vous voyez, à côté, là encore, nous, on prétend peut-être remplacer quelques vitraux relativement mineurs de Viollet-le-Duc, et ça fait 200 000 signatures, tout le monde dit non, jamais, vous passerez sur mon corps, enfin bref, bon. Voilà, donc c'est quand même du sport. Sachant que ce qui est demeuré, en revanche, ce sont les trois roses. Je rappelle qu'on ne dit pas des rosaces, mais on dit des roses. Les rosaces sont des éléments architecturaux en pierre sur pierre. Donc il y a trois grandes roses gothiques à Notre-Dame, et les vitraux ont été dans l'ensemble préservés, sauf quand ils ont été abîmés par les intempéries, et dans ce cas-là, ils ont souvent été remplacés par d'autres fragments qu'on avait retrouvés selon les différents... voilà. Donc, ce qui est intéressant quand même, c'est que vous voyez, à travers cette période-là, à travers le vœu de Louis XIII, donc Marie qui livre son fils dans la Pietà, ben on a un peu le troisième élément, vous voyez, on a la vie publique, l'enfance et la vie publique, la croix et la passion, la résurrection. Donc on tient avec ça, vous voyez, une abside très nettement christologique. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, c'était vraiment très simple de se dire, ben, en fait, c'est de ça qu'il faut qu'on parte pour construire le reste du projet. Je précise hein, là-dessus que moi, je suis entré dans un projet qui était déjà très, très lancé. Hein, donc, je me suis contenté souvent d'aider à ce qu'il soit plus incarné par des figures concrètes. Voilà. Donc, je ne majore pas mon action. Voilà. Alors là, je vous ai mis... Donc, la révolution arrive, hein, et la révolution, c'est quand même, pour le coup, une période de cataclysme pour Notre-Dame. On détruit quand même beaucoup de choses. La cathédrale va être dans un état de délabrement profond pendant longtemps. Hein, on a fait, donc, sur la façade, on fait tomber toute la galerie des rois, parce qu'on a perdu l'idée qu'en fait, il s'agissait des rois d'Israël, et on est entré dans l'idée que c'était un peu les rois de France, ce qui n'est pas anormal, parce que la cathédrale... évidemment, la cathédrale de la capitale du royaume, elle va associer étroitement en fait une histoire sainte et puis l'histoire des rois eux-mêmes. Donc on a beaucoup abîmé la cathédrale et on l'a abîmée volontairement, voire par certains aspects, systématiquement, hein, avec une vraie volonté de détruire. Et donc quand Viollet-le-Duc va récupérer la cathédrale, elle n'est pas dans un état extraordinaire. Mais entre-temps, il s'est passé quelque chose de très marquant, c'est que la Révolution a définitivement fait tomber le jugement. Plus de séparation entre l'abside et la nef. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que donc, c'est là, c'est à la croisée que va avoir lieu la prise de serment de la Constitution civile du clergé, en 1802, la signature du Concordat, et de plus en plus, dès le 19e siècle, on va se mettre à monter des autels provisoires à la croisée pour telle ou telle célébration, donc comme le Tédéum pour la prise d'Alger, je n'ai aucune action dans la colonisation, mais vous voyez, l'idée c'est vraiment, vous voyez, cet espace unifié, mais seulement de temps en temps, voilà, seulement de temps en temps et sans que ce soit encore vraiment pleinement un acquis. L'aménagement Viollet-le-Duc va rester un aménagement relativement traditionnel, voire si on avait laissé faire Viollet-le-Duc, il n'y aurait plus rien du grand siècle dans la cathédrale. Hein, parce que Viollet-le-Duc, si on l'avait laissé faire, il aurait détruit le vœu de Louis XIII. Hein. Il l'a quand même laissé, il a juste retiré tous les coffrages de marbre de Carrare et de marbre du Portugal, mais il a quand même... on lui a dit, non, tu ne peux pas me partir la Pietà de Nicolas Coustou, qui est quand même une splendeur. Et donc il l'a laissé, et il a fait basculer donc, les deux grandes baignoires, enfin, les deux grandes stades d'honneur qui étaient ici, normalement. Il les fait basculer vers la nef, donc vous voyez, premier signe, en fait, on considère que cet espace-là est important et qu'il y a quelque chose d'une unification qui est en train de se faire entre le cœur des chanoines et l'ensemble de la nef. Et à partir de là, mais ça n'advient pas complètement, et donc le duc fait donc un banc de communion, une grille du cœur, et l'autel va être maintenu toujours à la même place, même si, de manière récurrente, en fait, on est sans cesse en train de le mettre à la croisée, parce qu'on se rend bien compte qu'en fait, c'est le lieu de la visibilité, et qu'à partir du moment où il y a des très grandes célébrations, c'est là que ça doit pouvoir être. Alors là, si vous avez une photo de la grille Viollet-le-Duc, hein, le banc de communion, enfin, qui était une grille forgée, la grille Viollet-le-Duc, la couronne de lumière, voilà, qui venait marquer un petit peu l'entrée dans le cœur, voilà, et puis toute une série de lustres ici, hein, qui ont ensuite été replacés à d'autres endroits de la cathédrale. Je vous en montrerai dans les photos les plus récentes, parce qu'ils sont... ça tape maintenant. Ils sont dorés de chez dorés. Donc, ça, c'est pas mal. Voilà, bon. Là, je fais un grand bond hein, pour passer à l'aménagement juste avant l'incendie. En réalité, il y a eu d'autres aménagements provisoires. Un aménagement, probablement au début des années, dans les années 50 à peu près, 50-60, qui était donc avant préconciliaire hein, et qui était déjà à la croisée. Ensuite, un aménagement post-conciliaire, donc post-Vatican II, qui est aussi à la croisée. Un troisième aménagement en 1989, Jean-Marie Lustiger fait construire un octogone central avec au cœur, pile sous la croisée, l'autel. Et puis, le même archevêque fait tout détruire parce qu'il se sentait tout seul, disait-il, sur son autel, perché sur son podium avec je ne sais pas combien de marches. Et surtout que son autel avait une marche supplémentaire. Hein, l'autel de Jean-Marie Lustiger était dans la masse, on le voyait très très haut, parce qu'en fait derrière il avait une petite marche arrière qui faisait que le célébrant était plus haut, mais en fait, du coup, l'autel semblait 15 cm plus haut que n'importe quel autel. Donc, avec un désir, un sentiment de verticalité, vraiment, chez Jean-Marie Bustiger, la messe comme sacrifice, hein, la verticalité de l'offrande à Dieu était signifiée de manière très forte. Mais il s'est rendu compte que ça ne marchait pas, et vous voyez, quand on fait le premier aménagement, déjà, on détruit le banc de communion, hein, on le détruit, on le dépose, parce qu'on ne détruit plus rien. Donc on l'a toujours. Et puis, en revanche, ce qui va se passer en 2004, c'est que là, on va aboutir à, si vous voulez, c'est là que je parle d'un principe intérieur, la cathédrale va trouver son axe, parce qu'on va légèrement décaler le lieu du sanctuaire vers l'est, donc maintenir quand même un certain axe davantage à l'est que simplement au cœur de la croisée, avec ce grand plateau liturgique, avec un autel légèrement retrait qui va être beaucoup plus pratique pour tout ce qui est circulation, des processions de communion, de vendredi saint, etc. Et on va rajouter quelques marches en arrière. Et ce que ça va permettre, si vous voulez, c'est vraiment là que la cathédrale trouve son unification, parce que ça permet à l'assemblée d'avoir une très bonne visibilité, en tout cas une visibilité meilleure, parce que dans une cathédrale comme Notre-Dame, qui est quasi romane, les piliers, c'est de toute façon compliqué. Hein. Mais ça permet aussi d'unifier avec un cœur qui va être pour le coup très important dans une cathédrale, parce qu'il y a des grandes concentrations, avec grand renfort de clergé, comme dirait le patrimoine. Les gens du patrimoine nous appellent tout le temps le clergé. Il faut s'habituer. Au début, ça fait un peu bizarre. On a un peu l'impression d'être généralisé. Et puis, évidemment, la maîtrise de Notre-Dame. Donc, si vous voulez, ça permet... à partir de là, on peut dire que la cathédrale a trouvé son axe. Et nous, ce qui a été très marquant, c'est que quand on a cherché à réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait positionner les choses, il est apparu de manière très nette qu'on ne pouvait quasiment rien modifier parce que Notre-Dame est une cathédrale relativement petite. On va caser 1500 chaises, mais en fait c'est assez petit, Notre-Dame, et le plateau liturgique, même élargi un petit peu ici et là, en fait reste assez petit. Et si on veut que l'autel existe, ben, si vous voulez, on pourrait rêver d'un autel très large, mais en réalité, si on se met à faire ça, visuellement, l'autel commence à mordre sur toutes les stalles, surtout, et en fait on ne le voit plus. Donc il y a un enjeu qui soit à la fois suffisamment isolé pour que l'autel soit absolument central, pour que quand il y a une concélébration, la couronne des prêtres entoure l'autel, mais que ça reste visuellement l'autel qui soit premier. Donc c'était pas si simple, en fait il n'y avait pas une énorme marge pour la taille de l'autel. Alors ça a conduit, de notre part, quand il y a eu le concours qui a été fait, à donner un cahier des charges, on ne pouvait pas changer la taille de l'autel. On avait reconduit les dimensions exactes de l'autel précédent. Et en réalité, depuis, on l'a fait élargir, on l'a fait agrandir. Donc, le futur hôtel de Notre-Dame sera plus grand que l'ancien. Voilà. Donc, à travers ça, vous voyez un peu cette espèce de principe intérieur de la cathédrale. On a un axe liturgique qui au fond est la croix liturgique centrale. C'est vraiment le lieu en fait qui va représenter le Christ. Et puis après, on va avoir la couronne des chapelles, dont il va falloir faire quelque chose. En sachant que ces chapelles qui avaient vécu une vie complètement indépendante, on les avait laissées là où je vous en avais parlé, c'est-à-dire à l'époque médiévale, chacun construit sa petite chapelle pour le salut de sa propre âme, si je puis dire. Avec Viollet-le-Duc, quand il récupère les chapelles après la Révolution, Viollet-le-Duc est assez radical. Il dit que ces chapelles n'étaient pas là au départ, elles n'étaient pas faites pour être là. Parce que, normalement, on avait un mur de vitrail. On avait un mur de vitrail, et en repoussant les chapelles, on avait un mur de vitrail ici, et en repoussant les chapelles entre les contreforts, on a repoussé la source de lumière. Et en plus, il dit, le problème, c'est que les contreforts, c'est pas de la bonne pierre, puisque effectivement, elles étaient faites pour être à l'extérieur au départ. Donc, du coup, la pierre est Babel. Donc, lui, il dit, soit on supprime toutes les chapelles latérales, soit on camoufle, donc on les peint. On peint toutes les chapelles. Et donc, Viollet-le-Duc va prendre l'option de peindre l'intégralité des chapelles, des collatéraux et de l'abside. Avec des décors, à vrai dire, très réussis, qui sont préservés pour toute une part, mais non pas tout. Voilà, donc là vous avez l'incendie avec cette image très impressionnante, qui est une des premières images photo prises d'un incendie avec la croix glorieuse rajoutée par Jean-Marie Bustiger derrière la Pietà. En réalité, la Pietà avait une gloire derrière elle. et la gloire est supprimée par Viollet-le-Duc. Et donc, elle perdait quelque chose parce qu'il n'y avait plus la croix, il n'y avait plus la dimension de gloire. Et donc, ce qu'a fait Lustiger, c'est de rajouter cette croix glorieuse, surmontée d'une espèce de toute petite, en fait, comme une sorte de lame dorée, hein, qui vient représenter l'ouverture du ciel. Là, on en aperçoit juste un petit éclair. Donc, il a redonné la Pietà à sa dimension glorieuse. Donc, ça, c'était plutôt bien fait. Voilà. Et puis, quelques temps après, donc, la croisée s'est définitivement effondrée. Donc, il y avait d'abord un premier effondrement où la cathédrale a été percée par la chute de la flèche. Entre parenthèses, cathédrale, c'est très très bien fichu. Hein, c'est fait pour brûler. Hein. Donc, c'est-à-dire que la charpente en bois, jusqu'ici, n'avait pas brûlé, mais partout où elle a brûlé, elle n'a jamais percé la voûte. Sauf là où Viollet-le-Duc a rajouté sa flèche, qui est une flèche beaucoup plus lourde que la flèche initiale, qui elle donc s'est effondrée hein, pour le coup en transperçant la voûte. Donc dans un premier temps, ça a simplement transpercé la voûte. Dans un deuxième temps, une deuxième partie de la voûte a écrasé une partie de l'autel qui était en bronze et donc qui était un autel en partie creux. Voilà, donc ça a été assez abîmé. Voilà, et donc l'aménagement prévu pour la réouverture, à vrai dire, vous voyez qu'il est à peu près semblable, sauf que Jean-Marie Lustiger n'avait pas de cathèdre, son successeur n'a pas désiré avoir de cathèdre, mais notre archevêque, lui, a souhaité avoir sa cathèdre, qui sera ici, avec ses armes dessus. L'embon a été déplacé donc, au pied de la Vierge qu'on appelle Notre-Dame de Paris, hein, la Vierge de Saint-Aignan, qui était dans la chapelle, donc, dans une petite église à côté de Notre-Dame, l'église Saint-Aignan. Et l'archevêque a souhaité que l'embon, le lieu de la proclamation de la parole, soit du côté de Marie, parce qu'elle est la première auditrice de la parole. C'est pas mal comme argument, je trouve ça très bien. Voilà. Et puis l'autel au centre, le tabernacle, qui était dans une chapelle latérale arrive désormais sur l'ancien maître-autel Viollet-le-Duc, qui entre-temps avait déjà été privé de sa galerie, privé de son tabernacle. Il y avait déjà eu des réaménagements antérieurs. Donc, en fait, l'autel était simplement la surface de l'autel, mais plus l'intégralité en fait, de l'autel Viollet-le-Duc. Ce qu'on a fait là dans le réaménagement, c'est que dans une des chapelles latérales, on a recréé la base d'autel, on a remis les galeries, on va remettre le tabernacle, et comme ça on pourra se rendre compte de ce qu'était l'aménagement Viollet-le-Duc, alors dans une chapelle déportée, mais pour rendre ça possible. Et en revanche, le tabernacle, dans les textes de Vatican II, il est dit que une place qui peut être une place appropriée, c'est le lieu de l'ancien maître-autel. Voilà. Ce qui change aussi, c'est qu'il va y avoir un baptistère à l'entrée de la cathédrale. Pourquoi est-ce qu'on met un baptistère à l'entrée? Tout simplement parce que il fut un temps où on était baptisé enfant, et donc il y avait un baptistère ici, un baptistère Viollet-le-Duc qui y est toujours, d'ailleurs, qui va être inauguré. Hein. Aujourd'hui, on est encore de temps en temps baptisé enfant, mais il faut bien reconnaître que beaucoup de monde n'est pas du tout baptisé, et que, on le voit, et ça continue. Hein. J'ai plein de prêtres alliés en paroisse, curés qui me disent, mais on voit arriver encore des catéchumènes, et c'est quand même très impressionnant pour nous, voilà, de voir que le désir de Dieu demeure, et même se grandit, en tout cas en nombre, le baptême des adultes grandit toujours. Donc c'est une manière de signifier hein, qu'on ne naît pas chrétien, mais on entre dans la foi chrétienne par la vie baptismale. Donc à travers ça, vous voyez cette espèce de long axe avec au centre l'autel et l'embon, hein, l'unique et double table, et puis la cathèdre de l'évêque qui représente le Christ dans les actes du culte. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'aménagement qui est prévu, vous voyez, qui au fond ne change pas énormément l'arrangement de la cathédrale, pour dire quand même ce qui s'est passé aussi dans les années 50, plutôt au début des années 60, il y a un architecte en chef des monuments historiques de la cathédrale, qui s'appelle Pierre-Marie Ozas, qui a décidé de faire revenir des mets dans la cathédrale, et même de faire revenir toute une partie, quelques tableaux qu'il a pu récupérer, qui étaient d'anciens tableaux d'autel, de la cathédrale. Pourquoi il fait ça? Parce que auparavant, Viollet-le-Duc, qui avait sa grande idée du gothique, hein, donc si on l'avait écouté, il n'y aurait plus de stade, de grand siècle, il n'y aurait plus de Louis XIII, il aurait tout remis à la sauce gothique, hein, ce qui faisait très bien. Hein, donc voilà. Mais heureusement, on l'a quand même freiné un petit peu. Mais en revanche, là où il a bien réussi son coup, c'est qu'il est allé voir les chanoines, il a persuadé les chanoines de faire don de tous leurs mets au musée du Louvre, et on a retiré l'intégralité des tableaux de la cathédrale. Et donc, Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens dans les monuments historiques qui disent « Oui, c'est horrible, on a détruit tous les décors du Viollet-le-Duc, mais on n'aurait jamais dû faire ça, parce que c'est eux qui l'ont fait. Hein. » Dans les années 60, Pierre-Marie Ozaz décide de faire revenir des maîtres dans la cathédrale. Il en fait revenir, il en fera revenir en tout 13. Nous, on en a fait revenir un 14e. Et pour les maîtres, il faut bien les mettre quelque part. Il ne considère pas possible de les remettre dans la nef, parce qu'il se dit « Ça va perturber l'arrangement boutique. » Donc, il se dit « On va les mettre dans les chapelles latérales. » Il regarde les chapelles latérales. Et il se dit, à mon avis, hein, c'est comme ça que je relis l'histoire, lesquelles sont les moins bien? Les chapelles de l'abside ont des chapelles, par exemple la chapelle Saint-Ferdinand est peinte avec des scènes de la vie de Saint-Ferdinand peintes sur le mur. La chapelle de Marie-Madeleine a des scènes de la vie de Marie-Madeleine peintes sur le mur. Pareil pour Saint-Germain de Paris. La chapelle Saint-Martel a carrément des grandes scènes 19e extraordinaires avec la translation des reliques de Saint-Marcel. C'est quand même des peintures plus élaborées, alors que dans les chapelles des deux du collatéraux, les décors servaient à mettre en valeur des statues. Voilà. Et la statuaire du 19e, même restaurée, moi franchement je considère que c'est quand même pas le sommet de l'art chrétien. Voilà. Mais bon, après tout, elles sont pas mal. Mais si vous voulez, c'est juste parce qu'aujourd'hui on dit toujours les gens ont fait des horreurs. Non, les gens, ils avaient une réflexion. Pierre-Marie Ozaz, il n'a pas fait ça n'importe comment. Il s'est dit, c'est aberrant que toute une partie de l'histoire de la cathédrale n'y existe plus, donc je fais revenir une partie des tableaux, et pour pouvoir les mettre quelque part, eh bien, je retire les décors. Donc, il les retire. Pas à moitié, c'est-à-dire qu'il fait un premier test. Le test est concluant, on a raclé le décor jusqu'à la pierre, et on va racler tous les décors, et y compris les décors des transepts qui avaient été peints par Viollet-le-Duc. Je pense quand même que si on l'avait écouté, peut-être là encore qu'on aurait tout raclé. Parce que c'était une époque où on raclait tout, on avait bien la pierre apparente, etc. Bon, en fait, Dieu merci quand même, l'abside est absolument intacte. Hein. Et donc, dans l'abside, vous pourrez voir, en entrant dans la cathédrale, les chapelles Viollet-le-Duc absolument intactes, avec leur décor, où la peinture est toujours première, et où les grisailles, avec des inserts polychromes, viennent soutenir la peinture. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une grisaille? C'est un type de vitrail. Hein, qui fait entrer la lumière de manière assez translucide. C'est des verres qui ne sont pas transparents, pour que la lumière qui entre ne soit pas trop crue, et qu'elle soit légèrement teintée, tout en étant égale. C'est-à-dire, le but, ce n'est pas de projeter des couleurs rouges, des couleurs vertes, mais de faire entrer la lumière du jour. Hein. Je vous montrerai une autre photo où on voit ce qui est pensé dans les décors. Mais ce qui est premier dans l'idée de Viollet-le-Duc, ce sont les peintures. Il a choisi de peindre et de soutenir la peinture par de la lumière avec un peu de polychrome. Et donc, c'est pour ça que quand il s'est agi de changer quelque chose dans Notre-Dame, il était hors de question de toucher à l'abside, qui est absolument intacte dans tous ses décors, enfin, dans une certaine accumulation des siècles. En revanche, là, on avait des chapelles où, en plus, hein, on a arasé tous les gradins d'autel, les tabernacles, retiré les socles des statues. Donc, en fait, on avait des chapelles qui étaient très bouleversées dans leur ordonnancement. Et donc, c'est pour ça que dans ces chapelles-là, on s'est dit qu'on pouvait peut-être réfléchir les choses autrement. Et donc, à partir de là, on a eu une réflexion assez simple, au fond, puisque l'abside est christologique, puisqu'on va visiter la cathédrale dans ce sens-là, eh bien, on va créer une allée qui va représenter les annonces du Christ à travers l'histoire, donc une allée consacrée à l'Ancien Testament, qui va être l'allée de la promesse, et après le Christ, eh bien, une allée consacrée à la sainteté, à l'Esprit Saint, à l'œuvre de l'Esprit Saint dans l'Église, et on a choisi un certain nombre de saints de Paris, parce qu'il fallait bien choisir quelque chose, et maintenir un certain nombre de titulatures. Donc une bonne partie quand même des titulatures sont maintenues, et 7 d'entre elles, mais dont certaines qui étaient déjà dédiées au Christ, ont été transformées pour donner des titulatures qui sont vouées aux patriarches de l'Ancien Testament. Vous voyez, donc on se retrouve avec un parcours. Si je caricature un tout petit peu, on a au nom du Père et du Fils et puis du Saint-Esprit. Vous voyez, en fait, c'est assez simple, mais parce que les gens, ils vont visiter 20 minutes. Donc là, tout ce que je vous raconte avec beaucoup d'élaboration, beaucoup de gens, ils ne vont pas réfléchir, ils vont passer, etc. Mais si au moins, de manière un peu intuitive, on peut leur faire comprendre qu'il y a une annonce du Christ, une venue du Christ, et puis ensuite un temps de l'Église, et que ces choses-là peuvent être connectées d'une manière un peu chronologique, et puis même pour nous, en fait, mais ça veut dire que visiter la cathédrale, ça sera entrer, revivre quelque chose de l'histoire du salut qui est la nôtre. Voilà, et donc à partir de là, on a conçu ce qu'on appelle le chemin de pèlerinage dans Notre-Dame. Un pèlerinage qui commence évidemment par la façade. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça? C'est parce que désormais, au lieu d'entrer donc, par le portail Sainte-Anne, qui était ici, donc là, le portail du couronnement de la Vierge, et au centre, le portail du jugement dernier, hein, et bien on va entrer par le portail du jugement. C'est-à-dire on va entrer de nouveau dans la cathédrale par sa porte principale, et le but c'est qu'on soit saisi par la pression donnée par la nef. Voilà. Alors, après, je vais aller un petit peu plus vite, parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, donc ça c'est des vues 3D, donc très trompeuses, aussi trompeuses que le tableau que vous avez vu l'autre fois, parce que nous ne voyons pas en 3D. Hein. Je rappelle notre regard, le regard humain se porte beaucoup plus fortement vers les objets qui l'intéressent. Donc là, typiquement, l'autel est en orthométrie, hein, donc c'est une vue complètement géométrique. Moralité, tout le monde nous a dit, l'autel est minuscule, on dirait un autel de chapelle, etc. Alors que l'autel, là, il est représenté avec une surface au-dessus qui est exactement identique à la précédente. Donc le 3D, souvent, a beaucoup trompé dans les images qui ont été données de la cathédrale, parce que du coup, on réagit, on se dit, mais c'est minuscule, ça ne va pas, etc. Bon, néanmoins, on l'a quand même fait élargir à l'artiste qui a été choisi. Comment le mobilier a été choisi? Donc moi, je suis arrivé à un moment où il avait déjà été décidé de faire un concours. Et donc, moi, je me suis retrouvé là-dedans. 5 artistes ont été retenus, ensuite ils sont entrés en compétition, et finalement a été retenu un artiste qui s'appelle Guillaume Bardet, qui a choisi de faire un mobilier intégralement en bronze. Et à titre personnel, pour vous donner en tout cas mon appréciation, je pense que le meilleur projet a été choisi. Alors après, on est très libre de ne pas l'aimer. Mais je pense que de ce qui était donné, il y avait des choses qui étaient très très belles en 3D, mais qui en pratique, quand on voyait les choses telles qu'elles étaient, ne pouvaient pas marcher avec le cahier des charges qui était donné. Nous ne voulions pas d'un truc rétro-éclairé de partout, avec des lampes qui pèsent, des machins. On voulait... Non, parce qu'il y a des trucs, il y a des choses où on peut mettre du verre, des... Mais c'est très intéressant, mais vous voyez, le risque c'est qu'après on aura toujours le micro-organisme qui fera qu'à la fin l'hôtel il n'est pas en vert mais il est vert tout court. Donc on voulait quelque chose, en fait on voulait pas du compliqué, on voulait que ça puisse être éclairé de l'extérieur mais que ça ne dépende pas d'une lumière artificielle. Et donc lui il a proposé donc ce mobilier en bronze, voilà, qu'on lui a depuis fait un peu élargir, mais en fait il est encore plus large maintenant. Voilà, avec le baptistère à l'entrée, hein, le cahier des charges du baptistère, c'était il fallait qu'il y ait un couvercle. Hein, parce que nous avons l'expérience des 850 ans de Notre-Dame, on avait mis un bénitier à l'entrée de la cathédrale, moralité, le bénitier est un réceptacle à pièces jaunes. Et donc, vous voyez, ça nous a le problème. Il faut faire avec le visiteur moyen qui dit « Ah, de l'eau, bon... » Donc, on a demandé à ce qu'il y ait un couvercle sur le baptistère, et pour le coup, la très belle invention de Guillaume Bardet, ça a été de transformer le couvercle de manière que le couvercle lui-même, en fait, dise l'eau, hein, les eaux de la mer, hein, qui, dans laquelle la croix vient se planter. Je rappelle que la mer, pour les Hébreux, ça représente la mort. Donc la croix, c'est vraiment l'arbre de vie qui vient transformer les eaux de la mort en eaux de la vie. Donc c'est un très beau symbole baptismal, extrêmement contenu, mais extrêmement clair, en fait. Et c'est par ça que les gens vont être accueillis dans la cathédrale. Voilà, après, bon, je ne m'attarde pas sur l'ambon et l'autel. L'autel, ça, c'est ancienne version. Là, je vous donne la maquette en cire. Je précise qu'il ne sera pas noir comme ça, même si le régisseur de la cathédrale, là, je suis pas retourné sur le chantier depuis quelques temps, le régisseur de la cathédrale m'a dit il est quand même sombre, mais bon, on va voir quand il y aura des lumières. Le principe de l'autel, c'est une voûte gothique inversée. Hein. La voûte gothique, disait un des architectes avec qui on travaillait, c'est la main de Dieu qui tient le bâtiment. Hein. Tout tient par la clé. Et donc là, c'est l'inverse. On a une main qui vient offrir. L'idée, c'était que ça donne une certaine verticalité, et surtout, on avait demandé que l'autel ressemble davantage à une table. Ça faisait partie des demandes liées aussi aux demandes de l'archevêque, puisque là, c'est aussi une table eucharistique. Donc là, on est dans quelque chose qui n'est pas tout à fait un des autels tombeaux 18e, parce que la pointe est beaucoup plus fine. Je précise, mais vous le verrez en fait en vrai, c'est très massif, donc ça n'offre pas du tout l'impression que ça va basculer. Là, mais en photo, on a toujours l'impression, et c'est ça qui me fascine, c'est que ce truc est impossible à prendre en photo. On a toujours l'impression qu'en photo, si on le touche, ça va voilà. Mais en réel, c'est beaucoup plus impressionnant. Bon, là, il y a un peu les éléments. Il y aura aussi le reliquaire de la couronne d'épines au fond, que vous allez encore voir à travers un très mauvais 3D tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, je vous fais voir un tout petit peu le parcours. Donc, on va entrer par le portail, on rencontrera le baptistère, et ensuite l'idée c'est que les gens vont remonter l'allée de la promesse. Dans cette allée, comme on avait des nouvelles titulatures, donc Noé, Abraham, Moïse, Isaïe, David, Salomon et Élie. Pourquoi Élie en dernier? Parce que l'Ancien Testament se referme par le prophète Élie. Les derniers mots du prophète Malachie sont « Voici que je vais envoyer Élie le prophète, il réconciliera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. » Donc c'est la fermeture de l'Ancien Testament, c'est l'attente du nouvel Élie. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis Élie en dernier, et comme on parle de réconciliation, c'est devenu la chapelle de confession. Vous voyez, c'est assez simple. Et pour qu'on incarne les titulatures, c'est-à-dire pour qu'on ait des scènes qui renvoient à... On a fait une commande donc d'une tenture de l'Ancien Testament, 7 tapisseries figuratives. Hein, donc la semaine prochaine, il va y avoir des annonces qui seront faites. Donc 3 tapisseries qui seront tissées par les Gobelins, 3 tapisseries qui seront tissées par Beauvais, et la dernière par un atelier d'Aubuchon pour faire travailler un atelier privé. Hein. Mais les autres, ce sera le mobilier national qui va les tisser, avec des savoir-faire qui sont toujours les mêmes hein, depuis le grand siècle. Avec un nuancier de 17 000 couleurs qui sont créées à l'œil nu, hein, pas à ordinateur, et toujours à partir des couleurs primaires. Et on part du bleu, du jaune et du rouge, et on crée toutes les couleurs du nuancier. C'est complètement fascinant. Hein, voilà. Elles ne seront pas là pour la réouverture, parce qu'une tapisserie... moi, je suis allé visiter le mobilier national, du coup, pour dire aux lissiers qui étaient là, bon, ben voilà, on va faire des tapisseries. Donc déjà, ils sont complètement à fond. Et puis, mais j'avais deux jeunes femmes, là, deux lissières qui étaient en train de terminer une tapisserie. Et je leur dis, alors, elle est bientôt finie, celle-là? Elle me dit, ah ouais, c'est allé beaucoup trop vite. Je dis, ah bon, mais vous êtes depuis combien de temps? 3 ans et demi. Donc, vous voyez, on bascule dans autre chose. Enfin, ça va être 3 à 5 ans de tissage hein, pour les tapisseries. Donc voilà. Et on a pas fait compliqué, parce que beaucoup de gens n'ont plus aucune idée de l'histoire chrétienne. Donc, il y aura la sortie de l'arche pour la chapelle de Noé, la traversée de la mer Rouge pour la chapelle de Moïse, pour la chapelle d'Isaïe, la visitation au chêne de Mambré. Voilà, enfin bref, ouais, mais ce sont des scènes plutôt classiques, et à la fin, Élie qui part dans un char de feu. Voilà, des choses assez impressionnantes. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment qu'on remonte cette histoire du salut. Et donc d'ailleurs, voilà, on avait mis dans le document des tapisseries de Don Robert, qu'on vient d'avoir une question publique, hein, mais pour montrer qu'il y aurait des tapisseries. Et c'est vrai qu'à la réouverture, vous verrez, il y aura des tapisseries qui sont des prêts du mobilier national. Mais bon, je viens d'avoir toute une séquence là avec la communication du diocèse pour dire, dites bien aux gens que c'est pas du tout définitif, que c'est juste pour qu'il y ait quelque chose en attendant que ça arrive, parce que comme ça va être des tapisseries, du coup on a pris des tapisseries modernes, parce que comme on va voir arriver des tapisseries contemporaines, mais du coup on va avoir une tapisserie de Matisse, une tapisserie de... Donc, au début les gens ils vont se dire c'est quoi le rapport. On a essayé qu'il y ait un rapport, hein, c'est-à-dire que les tapisseries de Matisse qu'on va mettre, c'est des tapisseries qui représentent la Polynésie, donc on va être plein de mais oui, mais c'est la sortie de l'arche de Noé, hein, donc bon. Fallait trouver des choses. Hein. Par ailleurs, ce sont des tapisseries absolument splendides, mais provisoires. Hein, j'insiste. Provisoires, voilà. Donc la dernière chapelle, c'est la chapelle de réconciliation. Là, un coup de génie, donc je suis quand même un peu fier, parce qu'on l'a eu avec le régisseur de la cathédrale en visitant la cathédrale. Il fallait qu'on trouve des espaces de confession. Et avant, donc, il y avait des affreux bocaux en verre, hein, qu'il y a souvent dans les églises. Et en tombant devant une de ces parois à Viollet-le-Duc, parce que Viollet-le-Duc avait fermé un certain nombre de chapelles, l'une d'entre elles pour faire le bureau du recteur. Hein. Et donc, à un moment, on a réouvert une des chapelles, on avait dit, bon, le bureau directeur, on exit le bureau directeur, donc on avait retiré, on avait déposé deux chapelles, deux cloisons Viollet-le-Duc. Et donc, nous, on a eu l'idée de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne les repose pas pour créer des espaces de confession qui, de toute façon, étaient dans certaines chapelles. Et l'unique modification qui est faite, c'est qu'on a fait, on crée un espèce de mouchard à biais, pour que ce soit visible, puisque dans une chapelle de confession, désormais, il faut absolument que les gens soient visibles de l'extérieur. Voilà. Et en même temps, ça va être isolant, et vous voyez que les vitraux ici, là, l'espèce de vitraux assurent la transition. Donc on va avoir quand même des chapelles de confession très belles. Et alors, pour vous inciter à aller vous confesser à Notre-Dame, dans la chapelle d'Élie, il y avait un bas-relief qui était déjà en place au moment où on a gratté les peintures, et donc on a retrouvé les peintures de l'Élie. Et donc comme on a retrouvé les peintures de l'Élie, on a restitué les peintures à l'intérieur du confessionnal. Allez, vous confessez plutôt dans la chapelle d'Élie, sachant qu'en face, la chapelle de Saint-Joseph, on n'a pas... Il y Vatican. Mais bon, allez aussi auprès de Saint-Joseph. Bref. Voilà, donc là, c'est ça. Ensuite, donc, on sera dans la psy, donc plutôt dédié au Christ. Donc, bon, là, je passe très vite, mais par exemple, un tableau, une Vierge de Pitié de Lubin Mougin, bah, on la raccrochera dans la chapelle Saint-Marcel pour que le thème de la Passion soit présent. Ça, c'était un groupe sculpté qui était dans les réserves de la cathédrale, qui était très abîmé. On le fait restaurer, la descente au Linge, et il sera juste avant les reliques de la Passion, et juste après, il y aura un Christ montrant ses plaies. Donc, des statues qui n'avaient plus aucune vraie destination, on les réinsère pour que tout, vous voyez, soit... Enfin, voilà, et une sorte de logique interne profonde. Voilà, ça, c'est les peintures que vous retrouverez, hein, vous voyez, donc la chapelle Saint-Denis, donc avec la vie de Saint-Denis, la chapelle Saint-Martin. Donc ça, c'est des relevés du 19e, mais elles ont retrouvé toutes leurs couleurs, c'est hyper impressionnant. Ça va être bluffant. Le reliquaire de la couronne d'épines, qui ne rend pas du tout en 3D. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il rend, parce que je n'ai vu que des 3D qui sont un petit peu déconcertants. Les cahiers des charges, là, c'était qu'on puisse voir, qu'on ne puisse pas manquer que la couronne est là. Parce qu'en fait, avant, il y avait un reliquaire relativement petit qui était censé représenter le manteau du Christ. Mais en réalité, j'avais des gens qui me disaient « Ah, j'adorais aller prier devant le Saint-Sacrement !» Sauf que c'était pas le Saint-Sacrement. Mais évidemment, quand on met du rouge, bon, voilà. Donc là, ça sera le reliquaire. Donc elle est plus haute que moi. Hein, donc elle sera vraiment à hauteur et avec donc, ce qui entoure ici. Donc c'est une immense auréole faite de pavés de verre, sculptés en cabochon avec des croix, et doré derrière. Donc ça va être riche. Je ne suis pas capable de dire exactement à quoi ça va ressembler, parce qu'honnêtement, Sylvain Dubuisson, le designer qui a fait ça, est un type honnêtement très impressionnant. Mais moi, je n'arrive pas à me rendre compte à partir des 3D. Bon, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est une chapelle latérale qu'on appelle la chapelle Saint-Guillaume, où, vous voyez, là, on remet... Là, on recrée l'hôtel du Viaduc, on remet les galeries, on remet les chandeliers, on remet le tabernacle, et au-dessus, on va mettre le grand crucifix du prince impérial offert par Napoléon III pour le baptême de son fils à la cathédrale, et qui deviendra une chapelle pour le coup, pour qu'après avoir vu les reliques de la Passion, où risque d'y avoir quand même beaucoup de monde, il puisse y avoir une chapelle où on puisse s'arrêter pour prier. Voilà, le but c'est que. En fait, on pourra. La nouveauté aussi, c'est qu'on puisse entrer dans toutes les chapelles pour pouvoir s'arrêter et prier. Toutes les chapelles sont rendues à la dévotion, ce qui n'était pas le cas avant. Et on pourra aussi donc, avoir un lieu de dévotion eucharistique dans le cœur. Là, vous voyez le vœu de Louis XIII, avec Louis XIV et Louis XIII offrant leur couronne à la Vierge Marie, qui présente son fils, la Sainte Pietà fabuleuse. Le tabernacle sera posé sur le maître-autel, et on aura des bancs, et donc ça deviendra un lieu de vénération eucharistique. Donc le cœur de Notre-Dame, qui avant était inaccessible, devient un lieu de prière. Et le tabernacle, alors qu'on a fait modifier, parce qu'on l'a fait beaucoup agrandir, le tabernacle est extrêmement humble de l'extérieur, et de l'extérieur à l'intérieur, il est entièrement doré. Et le but, c'est qu'il va créer une espèce de canopée, il y aura l'adoration eucharistique en fait en ouvrant le tabernacle pour l'adoration. Bien sûr, il n'y aura pas cette bougie ridicule que nous avons tout de suite fait supprimer. Parce que, bon, il a dit oui, mais je reconnais. Mais bon, parce qu'à la fin, il faut qu'ils rendent leur copie pour le concours. Voilà. Après, les scènes de... là, c'est les fameuses scènes de la résurrection. Là, ce sont deux mets. Pourquoi je vous les mets comme ça? Parce qu'il y en a un qui va être dans le transept nord. Donc, quand on aura fini l'allée de la promesse, on termine sur la figure d'Élie. Qui est le nouvel Élie? Dans la Bible, Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste sera dans le transept nord, en prélude, en entrée de la psyche christologique. Donc ce mail, il était au musée d'Arras. On a demandé au musée d'Arras si on pouvait le récupérer. Et ils nous ont dit oui. Voilà, donc, non mais ça, c'est, je suis très content. Il ne sera pas déjà de retour pour la réouverture. Mais vous voyez, on va avoir du coup le précurseur. Et de l'autre côté, on va mettre le proto-martyr avec un mec qui était déjà dans la cathédrale. Le martyr de Saint-Étienne, c'est-à-dire que juste après les scènes de résurrection, dans le transept, on aura cette fois le premier des martyrs qui voit le Christ monter aux cieux, donc qui voit quelque chose qui va quand même servir à évoquer l'ascension. Vous voyez ? Et donc à partir de là, Étienne va assurer la transition vers l'allée de la Pentecôte, qui va être l'allée consacrée au saint de Paris. Là, on a fait un... Bon, il a fallu choisir. Alors là, je vais vous dire... je veux dire, il y avait toute une série de facteurs, mais une part des facteurs, c'était qu'on avait, nous n'avons le droit de sortir aucun tableau de Notre-Dame. Tout devait retrouver une place. Et donc, par exemple, on avait un Saint Thomas d'Aquin, fontaine de sagesse. Eh bien, notre saint patron, chers amis, aura désormais sa chapelle. Parce que, voilà, vous voyez, le but, c'était les saints associés à l'histoire de Paris. Or, Thomas, Saint Thomas d'Aquin, a enseigné à l'Université de Paris. Donc, il va représenter. Et donc, chaque saint diffracte un don de l'Esprit-Saint, un don ou une œuvre de l'Esprit-Saint, sachant que les dons sont parfois un peu variés, parce que Saint Paul va dire dans une de ses lettres, si quelqu'un a le don de service, qu'il s'en acquitte, etc. Donc, on va avoir Thomas d'Aquin, qui va représenter l'intelligence, Clotilde, Paris capitale, femme de Clovis, la tête de la France, etc. L'esprit de conseil, hein, conseil à son mari, de se faire baptiser, et ça, enfin, c'est un peu plus que ça l'esprit de conseil, mais bon, c'est vrai. Voilà. Saint Vincent de Paul, l'esprit de service, puisqu'il crée les filles de la charité à Paris. Sainte Geneviève, patronne de Paris, l'esprit de force, on sait qu'elle a ravitaillé Paris, qu'elle a. Voilà. Saint Denis, l'esprit de mission, l'évêque de Paris, et le bien connu Saint Paul Chen, grand saint de Paris. En fait, à Paris, il y a une œuvre qui s'appelait l'œuvre de la Sainte Enfance, qui faisait prier les petits Français pour que les petits Chinois deviennent un jour chrétiens. Cette œuvre a eu un séminariste qui s'appelait Paul Chen, qui a été martyrisé. Et très tôt, en fait, dans l'histoire de la cathédrale, les reliques sont données à Notre-Dame, et donc il y avait déjà, en fait, une chapelle de la Sainte Enfance. On s'est un peu posé la question de savoir si on la maintenait ou pas. Et en fait, on s'est dit, ça représente vraiment l'unité. C'est par ailleurs une des plus belles statues 19e, où on a Jésus assis avec un petit Chinois et puis un petit Français. Voilà, c'est très touchant. Et en fait, cette chapelle donc, représente l'esprit d'unité. Là, où, si vous voulez, on a eu une réflexion supplémentaire, c'est que dans la pensée chrétienne, il y a toujours un accomplissement du nouveau, dans le Nouveau Testament, de ce qui est dans l'Ancien Testament. Et donc, en fait, les chapelles, de part et d'autre, des collatéraux, sont faites pour se répondre plus ou moins de part et d'autre. Donc, par exemple, Thomas d'Aquin, don de l'intelligence, va être en face de la chapelle de Salomon, qui représente la sagesse biblique. Clotilde, don de conseil, va être en face de David, qui représente la prière des psaumes. Normalement, quand je prie Dieu, j'espère qu'il sera mon conseil. Sainte Geneviève, don de force, elle va être en face de Moïse, qui libère le peuple à main forte et à bras étendus, etc. Et en face de la chapelle de Noé, représente la création, eh bien, Saint Paul Chen va représenter l'esprit d'unité, c'est-à-dire qu'au fond, on est appelé à... Pour vous dire quand même, vous avez échappé à quelque chose, parce que quand moi j'ai repris le projet, la dernière chapelle, elle devait être la chapelle Laudato Si. Alors, Dieu sait que j'aime bien les encycliques du pape, mais quand même, terminé par un truc en fait aussi situé dans le temps, je me suis dit, il faut quand même que les choses soient plus incarnées que des abstractions. Vous voyez, au début, peut-être une chapelle de la foi, une chapelle de la charité. Et vous voyez, le christianisme, c'est pas d'abord des idées, même si la charité est une réalité très concrète, mais il fallait que ça s'incarne, et puis surtout, on avait toutes ces œuvres d'art qu'il fallait pouvoir replacer, et qui donc vont retrouver une place en lien avec ces... Voilà. La dernière chose qui est peut-être importante à dire, c'est que on n'avait pas fini avec les mets. C'est-à-dire qu'on avait 13 mets, donc je vous ai dit qu'on en rajoutait un. Pour le moment, je vous ai donc parlé seulement de 2 mets. Sur les 12 restants, il y en a 2 qui sont consacrés à Saint-André. On les accroche l'un en dessous de l'autre dans un transept, qui est un accrochage historique des mets, donc qui permet de comprendre un peu comment certains d'entre eux étaient accrochés au 18e. Et ensuite, on avait 2 séries de 5. 5 dédiés à Saint-Paul et 5 dédiés à Saint-Pierre. Et alors là, on a rêvé de les raccrocher dans la nef. De les raccrocher à un endroit qui aurait quand même permis la lisibilité gothique. Et moi, ce que je trouvais génial, c'est que du coup, on avait l'abside christologique, enfin, l'englobant marial qui montre le Christ, et la nef avec les colonnes de l'église, Pierre et Paul, tatatin, voilà. Bon, le patrimoine a été tellement contre qu'on a fini par... On a poussé notre hypothèse jusqu'au bout, mais les gens du patrimoine disaient « c'est pas possible, on va abîmer la pureté gothique de Notre-Dame, c'est hors de question ». Donc on n'a pas pu les remettre à cet endroit-là. Et il faut bien reconnaître que même nous, au bout d'un moment, on a un peu reculé parce que les mets sont des tableaux très lourds et ça impliquait en fait de créer une espèce de cerclage au-dessus des chapiteaux pour réussir à les faire tenir parce qu'on ne peut pas les raccrocher comme ils étaient accrochés au Grand Siècle. Au Grand Siècle, ils étaient pendus aux colonnes, donc en cachant les chapiteaux, ce qui désormais est impossible, ou ils étaient posés, comme dans le tableau que vous avez vu, sur des barres et dans ce cas-là, on cachait les arches gothiques. Donc si on voulait maintenir le gothique, il fallait les mettre au-dessus du chapiteau, à un endroit un peu particulier, et en fait les chapiteaux sont très étroits. Il n'y a pas d'espace pour vraiment appuyer les choses. Et donc du coup, on a mis les 5 mets dédiés à Saint Paul côté nord. Donc on les verra moins spontanément parce que comme on va marcher vers l'est, ben on verra d'abord le mur est avec les tapisseries de l'Ancien Testament. On pourra toujours se retourner et voir les mets dédiés à Paul. Mais en revanche, au retour, comme on marche d'est en ouest, on va voir en premier la série des mets dédiés à Saint-Pierre. Et là, la bonne nouvelle, si on peut dire, c'est que les mets dédiés à Saint-Pierre, dans les Actes des Apôtres, la partie qui est consacrée à Saint-Pierre, c'est les chapitres 9 à 12, donc c'est très resserré. Et donc, du coup, on a vraiment une chronologie, on a une geste de Saint-Pierre qui va accompagner l'allée de la Pentecôte, et qui d'ailleurs commence par la Pentecôte qui est représentée ici. J'ai quasi fini, voilà, parce que là, vous voyez un peu les chapelles du côté du collatéral sud. Ça va se terminer sur ce grand tableau de la visitation dont je venais, qui va être sur un mur qui était un mur plein, qui sert de contrefort et d'appui. Donc ça se termine comme par un chant de louange de la Vierge. Et comme on avait ça d'un côté et que de l'autre on avait le même mur, eh ben, on a demandé au Louvre s'il voulait bien restaurer l'Annonciation de Claude Guyallet. Donc ces deux tableaux-là, ce n'étaient pas des mets, c'était une série de 8 tableaux qui surmontaient les stalles grand siècle, donc dans l'abside, donc dans le cœur des chanoines. Il y avait 8 tableaux comme ça absolument magnifiques. Et donc on fait ressortir et restaurer l'Annonciation, pour le moment vous pouvez voir qu'en noir et blanc, elle ne sera pas restaurée pour la réouverture, mais pour janvier, elle devrait réintégrer la cathédrale, ce qui là aussi est vraiment une belle joie. À ce moment-là, très tardivement, donc, c'est invité la question des vitraux dans la cathédrale, parce que tout d'un coup on nous a dit qu'il fallait qu'on fasse aussi des vitraux côté sud. Vous voyez que dans les chapelles du sud, il y a déjà beaucoup de choses en fait, beaucoup de... Il y a déjà Saint-Pierre, il y a sur les murs est, il y a d'autres tableaux. Voilà, c'était pas très évident. L'idée au départ, c'était qu'il y ait 6 vitraux. La question a été posée d'en mettre 3 de chaque côté dans la cathédrale. Moi, j'ai beaucoup milité pour, s'il devait y avoir des vitraux, pour qu'ils soient tous côté sud, parce que le côté sud est le côté royal pour les vitraux. C'est là que le soleil entre. Alors que le côté nord, on a mis les tapisseries, et le côté royal pour les tapisseries, parce qu'il y a moins de lumière, donc ça abîme moins les tapisseries. Et puis surtout, côté sud, en fait, il y avait déjà un vitrail, qui est le vitrail de l'arbre de Jessé, que vous voyez ici, qui est déjà en place, en fait. Et, en fait, c'est vrai que ça permet de se rendre compte que dans des chapelles qui, au départ, étaient faites pour être peintes avec des grisailles, des vitraux, vous voyez, ailleurs, les vitraux sont comme ça. Donc ce sont des vitraux blancs avec des inserts un peu polychromes. En fait, toute la partie colorée était faite pour répondre au décor peint. Mais à partir du moment où on a gratté tout le décor peint, le vitrail perd quand même un peu de sa pertinence, surtout quand la pierre devient blonde, parce qu'en fait, au départ, le vitrail doit être une entrée de lumière, et en fait, là, il fait presque terne par rapport aux pierres qui ont été éclaircies. Voilà. Donc il y a quand même une... On peut être contre les vitraux, mais moi, je trouve qu'il y a quand même une pertinence à se dire qu'on remet de la couleur dans des chapelles où, au fond, il n'y a plus de couleur parce que les murs n'en sont plus porteurs. Voilà. Mais en tout cas, on ne voulait pas rajouter trop de discours, et donc, parce que ça faisait déjà beaucoup. Donc, comme c'était l'année de la Pentecôte, c'est pas moi qui ai eu cette idée-là, d'ailleurs, mais l'idée a été finalement entérinée de créer une verrière composée de 6 baies, de 6 baies de vitrail, une verrière de la Pentecôte qui va diffracter l'événement de la Pentecôte. Donc je rappelle que le récit de la Pentecôte, c'est qu'ils étaient tous rassemblés en un seul lieu. Il y eut un grand bruit, deuxième baie, petit challenge, un grand coup de vent. Et donc l'Esprit Saint vient reposer sur eux comme des langues de feu. On a rajouté un verset qui est plus la dimension de réaction, ils eurent le cœur transpercé, qui intervient en fait quelques versets plus loin, dans la réaction de la foule au discours de Saint-Pierre après la Pentecôte. Et puis, dernier, dans la chapelle qui est consacrée à l'unité, ils parlèrent d'autres langues. Voilà. Donc, on avait un peu l'idée de donner une unité, là aussi, à cette allée de la Pentecôte à travers ces vitraux. Voilà, je m'arrête là. Je vais peut-être juste vous montrer, en bonus, quelques... c'est marrant, ça me sort toujours un écran qui n'est pas du tout celui habituel, c'est pas grave. Visite chantier. Donc là, je vais vous montrer quelques photos qui permettent un peu de se rendre compte de
ça va passer. Ça passe.
Donc voilà, donc là vous voyez, là il y a des mères restaurées qui viennent d'être reposées. Donc les fils de Sheva battus par l'homme possédé par le démon, et la prédiction du prophète. Est-ce que c'est Agabus? Oui, c'est ça, la prédiction. Donc un prophète qui prédit, je ne sais plus s'il prédit la famine, mais je crois qu'il prédit la famine. En Israël. Vous voyez, à la fin, on finissait par illustrer des scènes des Actes quand même assez confidentielles, hein, dans la possibilité de les comprendre. Vous voyez, mais donc, vous voyez donc, la blancheur retrouvée de la cathédrale. Là, on est vraiment dans les toutes dernières images. Donc là, je suis très, très content. Vous voyez, ça va être notre professionnel. Ils ont encore posé une partie des choses. Voilà, ça va être quand même une chapelle assez belle une chapelle qui aura, au fond... De ce côté-là, c'est Sainte-Anne et la Vierge, une statue au fond. Là, vous avez la conversion de Saint-Paul, on est toujours côté nord. Bon, ça, c'est les toutes dernières photos que j'ai reçues, je les ai même pas vues, moi, en vrai, là, actuellement. Actuellement, je suis... Donc là, ils sont en train de poser les deux mecs consacrés à Saint-André, dont je vous parlais, donc accroché à... Non, ça, c'est pas... Non, là, on est transept sud, on n'est pas transept nord. Donc là, ils viennent de poser le martyr de Saint-Étienne, et au-dessus, il y a un tableau de Guido Reni qui s'appelle Job rétabli dans ses biens, et où on voit tout plein de gens arriver en procession et offrir des cadeaux à Job qui est couronné. C'est un tableau qui, dans l'histoire de Notre-Dame, a parfois perdu son titre. Aujourd'hui, on est sûr qu'il représente ça, mais c'est quand même une iconographie qu'on peut appeler un peu orpheline. Et du coup, on l'avait pris pour les nations glorifiant le Christ. Et donc, comme on est dans le lieu où, en fait... On parle de l'ascension, on s'est dit, bon, ça fait quand même une image un peu glorieuse qui peut évoquer Christ. Voilà. Bon, là, c'est quand même hyper impressionnant, parce qu'on retrouve la nef. Avec, vous voyez, les lustres sur le côté, là, les lustres. Le vœu de Louis XIII, voilà, avec des grilles toutes redorées, enfin, c'est quand même... Bon, ça, c'est le bord de l'autel qui a été posé, avec une des croix d'autel, une des cinq croix d'autel. Voilà, bon, là l'autel il est sous bâche. Voilà, là on voit un peu voilà, toute la partie, on voit vers l'orgue, donc vers la rose ouest. Voilà, alors ça j'adore cette photo. Là l'illustre Viollet-le-Duc, vous voyez ça. Alors il y a toujours des gens qui ne sont pas contents parce que ce n'est pas l'accrochage originel des lustres Viollet-le-Duc. Parce qu'en fait, dans les années 70, au moment où on a électrifié, on a déplacé les lustres qui, à l'origine, pendaient dans la nef pour les mettre en dessous, entre les arches, parce que c'était moins coûteux en filin, etc. Mais si on avait suivi les puristes de Viollet-le-Duc, on aurait des filins partout dans la nef pour rependre les lustres dans toute la... Vous voyez, c'est toujours un peu des trucs où... Bon, moi, j'ai rappelé aux amis de Notre-Dame, parce que je m'attendais assez fort à me prendre des tomates pourries il y a deux jours. J'ai commencé par rappeler, j'ai dit, en fait, nous aimons tous Notre-Dame. Personne n'a prévu de la défigurer. Mais on a tous un amour de Notre-Dame qui a une idée sur Notre-Dame qui, parfois, est un peu différente. Et donc, le résultat final est quand même le fruit d'un certain nombre, peut-être pas de compromis, mais de... Vous voyez, de... Voilà, ça, c'est vraiment très beau aussi. Et donc, avec un éclairage... là, qui n'est pas du tout encore achevé. Mais l'idée de l'éclairage, c'est aussi que le soir, désormais, on ne cherche pas à tout éclairer plein feu, mais que le soir, les voûtes puissent retomber dans une certaine pénombre, que la dimension du jour et de la nuit puisse être ressentie. Voilà. Et avec des types d'éclairage, il y aura un éclairage très froid pour le Vendredi Saint, un éclairage très glorieux. Non, mais ils ont prévu, parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut faire des choses incroyables. Et donc, ils se sont dit, mais puisque là, de toute façon, on est obligé de tout retirer, tous les fils électriques, tout a pris l'eau, pourquoi on ne fait pas quelque chose qui va servir la liturgie jusque dans la manière d'éclairer l'église? Donc c'est vraiment un truc un peu total, vous voyez, c'est voilà. Alors là, je vous montre, voilà, une chapelle Viollet-le-Duc telle que Viollet-le-Duc les avait voulu. Hein. Donc on a la peinture, on a les peintures, on a la polychromie, alors c'est pas la meilleure d'ailleurs pour s'en rendre compte. Vous voyez, là on voit très bien... Oui, là on voit très bien que, vous voyez, en fait, tout est peint, hein, toutes les lancettes, tout, tout,
tout est peint. Et donc les parties avec la polychromie donc sur la dimension grisaille vient jouer avec le décor peint. Vous voyez, donc c'est ça qui est perdu dans les chapelles des collatéraux. Hein, il y a plus le même. Voilà. Et donc ça c'est un des vitraux. Étant sursis, mais je suis pas capable de vous dire si on aura finalement des. Moi j'ai quand même l'impression que c'est bien parti parce que le président là, le président Macron, hein, a l'air quand même extrêmement déterminé à pousser le projet, quoi qu'il arrive. Voilà. Ça va occuper toute la journée. Voilà, donc je m'arrête là. Si vous avez quelques questions, on peut prendre quelques questions. J'ai été assez long, mais. On a combien de temps? Il faut qu'on soit carré. 10 minutes
ouais.
Max. Grand max, non?
5-7 minutes.
Oui, très bien, très bien. Non, mais je pense qu'il faut se tenir aux horaires. Voilà. Alors, l'ordre de cœur a été très très abîmé hein, par l'incendie, donc il va être reconstruit. Alors là, de nouveau, et ça a été un nouveau sujet de polémique, parce qu'en fait, vous n'avez que les sujets de polémique les plus affleurants. Hein, mais votre meunier, lui, il entend parler de tous, ce qui ne veut pas dire que moi je fais face à tous. Ceux qui font face à tous, c'est le recteur et les chapelains. En fait, on a décidé de créer un hôtel, un orgue recréé, l'ordre de cœur. Mais en fait, en lui donnant davantage de tuyaux, pour que dans l'accompagnement de la liturgie, en fait, il ait un orgue plus dimensionné, capable aussi de lui donner plus de variété de jeux. Et donc, les tenants du grand orgue ne sont pas du tout contents, parce que les organistes de chœur, voilà. Alors, tous ces gens sont tous excellents, ils ont tous des égos aussi dimensionnés que les tuyaux de leur orgue. c'est assez... Mais moi, je me réjouis, en fait, qu'on fasse un orgue. J'espère qu'il sonnera bien, voilà, j'espère que ce sera... Voilà. Mais en tout cas, il ne sera pas prêt pour la réouverture. Pour la réouverture, seul le grand orgue sera à même de jouer. Et il y a un certain nombre de choses qui continueront dans le temps. La cathédrale, vous n'allez pas voir disparaître les échafaudages. Les échafaudages vont durer jusqu'en 2030. Ouais, parce que tout l'extérieur de la cathédrale, là, avec le reste de l'enveloppe... Je précise que sur les trucs du diocèse, les tapisseries... C'est du mécénat lié au mobilier national. Ça n'est pas du tout pris sur les dons faits pour Notre-Dame et ça n'est pas du tout pris sur les deniers de l'Église. Le mobilier liturgique, il a été mécéné aussi. Donc il y a des gens qui ont offert des dons spécifiques pour le mobilier. Ça ne vient pas des dons qui ont été faits pour Notre-Dame. En réalité, hein, sur ce qui est en interne, il y a juste le réaccrochage des œuvres anciennes qui était déjà ça, évidemment, c'est pris sur les dons, mais parce que ça participe de la restauration. Ce qui est ajouté et financé autrement. Et ça, c'est quand même bien aussi de le savoir, parce que ça évite de repartir dans la... Alors, il y a Pierre-Valéry, oui.
Ce sera, et surtout ce qui est polémique, ce sera un accès au billet.
Alors, l'argument du diocèse, c'est de dire que les Français ont déjà payé. C'est-à-dire qu'on a déjà donné pour restaurer Notre-Dame. Donc là, l'idée est qu'on a donné 850 millions d'euros pour à l'arrivée se retrouver avec un ticket payant pour rentrer, c'est quand même un peu rude. Et en plus, on n'est pas du tout dans le même... Donc, en réalité, ils ne peuvent pas l'imposer, hein, parce que ça serait marcher sur la loi de 1905. Donc là, le diocèse est très ferme. Je vais dire une parole là qui est un peu politique, donc je suis désolé, vous ne m'en avez pas, mais là, Rachida Dati, ce qu'elle fait, c'est un calcul très démagogique, hein, pour dire, regardez, si on m'écoutait, j'avais la solution pour restaurer toutes les églises de France. Mais la solution pour restaurer toutes les églises de France, c'est pas de faire payer Notre-Dame, c'est de mieux gérer l'argent qui est déjà donné et de décider d'en faire une priorité. Hein. Donc là, en faisant ça, à très peu de frais à la fin de l'article, beaucoup d'esbroufes médiatiques, et à la fin, le diocèse a l'air d'être les infâmes qui disent non, mais en fait, nous, le but, et j'ai été très marqué par une de mes amies qui n'est pas croyante, et qui m'a dit, ah, je suis contente que vous ne fassiez pas payer, parce que moi, quand je paye quelque part, ben, je considère que j'ai le droit, que je suis dans un musée, quoi. Alors que quand j'entre gratuitement, je me sens toujours invité dans une église. Voilà. Et ben, je pense que c'est très beau comme manière de le dire. Voilà. Et on est tous invités.
Ma question me semblait un peu, parce qu'avant, je ne voyais pas, mais il y avait beaucoup de boutiques à gauche.
Il y a toujours une boutique. Alors, il y a toujours une boutique et il y a un accueil. été fait par, de nouveau par des agences de design, machin, etc. Donc l'accueil, maintenant, il est une espèce de comptoir enroulé autour du colonne. On ne peut plus avoir d'effet de boîte, en fait. Parce qu'avant, la boutique était là, là où sera désormais l'annonciation de Claude d'y aller. La boutique était là, c'est ça, et l'accueil barrait l'entrée ici. Et donc là, désormais, puisqu'on rentre par là, l'accueil va être ici, pour que les gens puissent recevoir quelques indications, etc. Et il y aura toujours une boutique qui sera enroulée autour des deux colonnes finales. Mais enroulée en mode bas, et avec une espèce de simple comptoir. Il y a toujours des marchands dans le temple. On peut le déplorer. Mais en fait, ça correspond aussi à une demande des fidèles, sachant qu'en fait, ce qui est vendu dans la boutique, normalement, c'est vraiment lié à du cultuel, hein, c'est-à-dire des statuettes de Marie, des médailles de la cathédrale, parce qu'on veut un souvenir, machin, etc. Voilà. Les médailles, ça rapporte beaucoup, si j'ai bien compris. Il y aura des. Voilà. Mais il faut voir que même les présentoirs à cierges ont été refaits par les designers. Ça, c'est le diocèse pour le coup qui le fait, mais c'est pareil, tout ça, c'est des choses que le diocèse, lui, finance. Mais tout est fait pour essayer que ce soit au maximum discret, en fait. On veut surtout pas, en fait, que ce soit... Mais il faut bien que les gens puissent brûler des cierges. On va pas décider de... Et on va brûler des vrais cierges. On va pas mettre à appuyer sur des boutons avec des... Mais vous dites ça, mais vous êtes content. Mais moi, quand je mets de l'encens à Saint-Germain-des-Prés, maintenant, je me fais engueuler. Vous en avez encore mis beaucoup trop. On vient de restaurer. Vous allez noircir les peintures. Je dis, merci. Elles noirciront. Vous voyez, c'est fait pour la vie. C'est-à-dire, après, on les renettoiera. Bon, c'est comme ça. Mais on peut vivre dans la ouate, mais c'est pas la vie, quoi. C'est bientôt fini, hein. Je m'en occupe quasiment plus, et donc là, je vais pouvoir être encore plus libre.